Oui,
là, je crois.
Très bien. Alors, je vous ai dit que la Bible nous parle d'abord des Hébreux. Et dans la première grande civilisation de l'humanité, qui était la civilisation chaldéenne, les Hébreux se trouvaient en diaspora là-bas, parce que c'était la civilisation du temps. Lorsque cette civilisation est devenue immorale et païenne, alors la famille d'Abraham, qui est un rescapé des Hébreux, sort de cette civilisation pour aller au pays de Canaan, qui était le pays des Hébreux. Alors je vais vous donner un certain nombre de versets qui montrent qu'effectivement, premièrement, Abraham est appelé l'Hébreu au chapitre 14 de la Genèse. Genèse 14. Au verset 13. Voilà, c'est tout. Voilà. L'Hébreu. Voilà. Alors, ça, c'est important de noter que Abraham n'était pas un Chaldéen. Il était un Hébreu exilé en Chaldée. Alors maintenant, on va chercher un verset qui va expliquer qu'est-ce que c'est que les Hébreux. Alors là, c'est un point important. Vous l'avez. Je vous dis tout de suite à quel chapitre. On va prendre le chapitre 10. Voilà, prenez le chapitre 10 au verset 25.
De la Genèse toujours.
De la Genèse toujours, oui. Est-ce que ça ne vous dérange pas que je fume?
Non, 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 pas du tout. Le 10, verset
25. Oui. Voilà. Là, nous sommes dans la généalogie de Sem, qui est un des trois fils de Noé.
Voilà. C'est de son temps que la fête
fut divinité,
son
frère s'est trouvé. Yoctav. Voilà. Alors regardez ce qui se passe. Dans la descendance de Sem, il y a un des descendants de Sem qui s'appelle Ever. C'est le mot qui en hébreu signifie hébreu.
Ah bon?
Oui, Ever. Alors Abraham, l'hébreu, ça veut dire de la lignée de Ever. Mais ce Ever, qui est un personnage de la lignée de Shem, est très important d'après ce verset parce que jusqu'à lui, l'identité humaine était une. Et c'est au temps de son fils, qui s'est appelé Peleg, que les nations se sont divisées. Par contre, c'est quand l'identité hébraïque, et ça c'est ce qu'on retrouve avec Abraham l'hébreu, ça veut dire l'homme qui avait gardé l'identité universelle. C'est clair comme...
Non, j'avoue que je...
Alors, je vais l'expliquer. C'est-à-dire, si nous nous demandons, même par exemple d'un point de vue chrétien, pourquoi Dieu a choisi les Hébreux pour se révéler. Tous les prophètes de la Bible sont des descendants d'Abraham l'Hébreu. Vous vous rappelez qu'on a appris que l'identité juive, c'est une identité postérieure à l'identité hébraïque, c'est l'identité des Hébreux de la dispersion. Les Judéens étaient les derniers des Hébreux du royaume de Juda, et quand Rome a détruit Jérusalem, alors les Judéens ont été dispersés, c'est devenu les Juifs. En français, le mot de Juif ne rappelle pas judéen, mais dans d'autres langues, vous avez, par exemple en espagnol, pour dire juif, on dit judeo. Oui. Ou bien en anglais, ou bien en allemand, jude. Ça veut dire Yehuda, c'est la tribu de Juda, qui a donné son nom au royaume de Juda. Donc les derniers des Hébreux, c'était les judéens qui sont devenus ensuite les juifs. Alors si on reprend la question, pourquoi lorsque Dieu s'adresse à l'universel humain, il parle à travers les Hébreux. Toute la Bible commence à l'histoire d'Abraham l'Hébreu. C'est parce que cette identité qui va recevoir pour nom Israël au temps de Jacob a gardé l'identité humaine universelle. Et par exemple, dans l'Évangile, vous avez le verset qui dit « Le salut vient des Juifs ». Et les Juifs étant les Hébreux. Ça va dans ce sens.
Qui ça va?
C'est plus clair maintenant.
Oui, c'est clair.
Et donc, on va s'apercevoir qu'une histoire commence avec Abraham, où il y a un peuple qui est les rescapés des Hébreux, qui ont gardé cette identité, qui les rend capables d'être prophètes, parce que lorsque Dieu parle à l'homme, il parle à l'universel humain. Et donc, il n'y a que les hommes qui avaient gardé cette identité d'Abraham de l'universel humain qui peuvent être prophètes de la Bible. Et il y a des rivalités qui apparaissent. Or, parmi les principales rivalités autour de la famille d'Abraham, dans l'histoire d'Abraham, il y en a deux en particulier qui vont, à travers le temps, fonder deux civilisations rivales d'Israël hébreu. La première, c'est Ishmaël et l'islam. Et la seconde, c'est Ésaü qui va donner la civilisation romaine. Alors, si vous voulez, après on peut revenir dans les détails du texte, mais c'est pour expliquer ceci. Si nous avons des textes que je vais vous citer, qu'au moment de la fin des temps, et la fin des temps, c'est la fin des temps d'exil. Parce que dans la civilisation occidentale, trop souvent, lorsqu'on dit la fin des temps, on pense à la fin du monde.
Du monde.
C'est une erreur. Si on va reprendre tout le verset des prophètes, lui, il y a « Et il arrivera à la fin des jours », en hébreu, ça se dit « Acharit hayamim », la fin des jours, ça veut dire la fin des jours d'exil d'Israël. Et c'est le temps du retour, comme par exemple le verset que nous avons lu. C'est-à-dire, là, il y a une première chose que je voulais rendre claire, que les événements de la fin des temps, d'après la Bible, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin des temps d'exil du peuple d'Israël. Alors, vous voyez qu'effectivement, au moment du retour des descendants d'Abraham de l'exil, il y a ce grand affrontement des civilisations autour de Babel dont parlent les prophètes. C'est tellement cohérent et finalement simple que ça donne le vertige, parce que c'est énorme, comme ça embrase toute l'histoire. Et alors, nous voyons qu'il y a deux grandes civilisations qui vont s'affronter. C'est celle de l'Occident, qui s'appelle Édom. Or, Édom, c'est le nom du peuple d'Ésaü, les Idumères. Et vous vous rappelez qu'au temps de l'apparition du christianisme, la dynastie royale en Judée était celle des Idumères, Hérode. L'Idumère. Et d'autre part, l'islam, qui vient de Ishmaël. Alors, voilà, si vous voulez, le cadre général du problème. Je voulais ajouter encore une chose pour montrer pourquoi ça concerne le pays d'Israël, qui est appelé dans la Bible la terre des Hébreux. Alors, si vous voulez, ça, on va l'étudier un peu en détail, et après, je vous donnerai un texte du Zohar qui parle du conflit actuel.
Mais tout ça a été prévu.
Mais oui. C'est-à-dire, voilà, le principe est le suivant. Lorsque Dieu a créé le monde, et ça c'est la Kabbale qui explique, il a projeté un plan d'une histoire et d'un programme qui doit se développer à travers différentes étapes. La manière dont les événements se passent, ça dépend du mérite des hommes. Mais le programme général des grandes civilisations, des grandes situations humaines, c'est prévu par le Créateur.
Et il est changé.
Et rien n'est changé. Ça veut dire que c'est ça qui se passe, qu'on le veuille ou pas. Et maintenant, à travers quels événements, ça dépend du mérite de la liberté. Si vous voulez, en science, on explique la différence qu'il y a entre un phénomène et un fait, un événement. Par exemple, la pluie. Alors, la science étudie le phénomène pluie. Le phénomène pluie obéit à des lois qui sont ce qu'elles sont. Maintenant, telle ou telle pluie, l'événement de la pluie, ça dépend de l'histoire. Mais le prophète, donc, nous explique le phénomène, c'est le devin qui essaye de deviner le fait. Vous voyez la différence. Je vous donne un exemple. Alors, au moment où, de la guerre des six jours, nous connaissions la date de la prise de Jérusalem. La date était connue par les prophètes. C'est arrivé à la date même. Et nous avons les textes. Alors, j'ai demandé à mon maître, comment ça se fait que... J'ai posé deux questions. J'ai demandé, comment ça se fait que des grands d'Israël, à travers les siècles, ont prié pour arriver à Jérusalem. Ça ne leur est pas arrivé, ça nous arrive à nous. Pourquoi nous avons mérité ça? Alors il m'a répondu, tu poses la question parce que tu ne sais pas qui nous sommes. C'est une réponse très profonde.
Oui.
Il a dit, si tu savais qui nous sommes, tu ne poserais pas la question. Et après un moment, il a dit, nous sommes les derniers des derniers et les premiers des premiers. Ce n'est que longtemps après, d'abord, point de vue moral, c'est joli. Les derniers. Longtemps après, j'ai compris ce qu'il voulait dire, que nous sommes les derniers des Juifs de l'exil et les premiers des Israéliens du retour. Alors c'est pour ça que c'est nous qui vivons ces événements. Alors l'autre question que j'ai posée, c'est, voilà, c'est arrivé à la date précise, mais au jour près, c'est arrivé à la date précise. Alors où est la liberté? Ça veut dire si...
Oui, c'est ça que j'allais poser comme
question. Alors voilà comment il m'a répondu. Il m'a dit, voilà, si tu entends dire qu'une femme est enceinte, Alors tu sais que si tout se passe bien, dans 9 mois, il y a un enfant. Est-ce que tu es prophète?
Oui, là, il y a.
Elle dit, voilà, il y a des lois qui régissent l'histoire. Le mérite de la liberté, c'est d'arriver à être celui qui mérite que ça lui arrive. Par exemple, pour cette femme qui a un enfant, eh bien, c'était pas prédit que cette femme aurait un enfant. Ce qui est prédit, que si cette femme a un enfant, elle l'a au bout de 9 mois. C'est-à-dire, les prophètes connaissent le fonctionnement
des lois.
Et le mérite, c'est d'arriver à ce que ça nous arrive.
Oui, faire en sorte qu'on se mette en position
de mériter ça. Alors là, pour revenir à notre problème, et je ne sais plus pourquoi je parlais de l'arrivée à...
Ah oui, oui, mais les questions que vous posiez à votre maître...
Oui, c'est cela. Parce qu'il y a un programme de l'histoire que les prophètes connaissent. En fait, nous définissons les prophètes comme ceux qui connaissent l'avenir.
Oui.
Mais en réalité, ils peuvent connaître l'avenir parce qu'ils connaissent le passé. Je vais essayer de vous montrer ça comme ça. Mmh. Et c'est pourquoi la mémoire est une vertu tellement dans la Bible. Vous vous rappelez combien de versets il y a ? Souviens-toi, n'oublie pas, souviens-toi, n'oublie pas. Et regardez, il y a en mathématiques la loi des angles opposés par le sommet. Alors, si je marque un angle comme étant le passé et l'autre comme étant l'avenir, il est évident que, étant donné que les deux angles opposés par le sommet sont égaux, si je connais le passé, je connais en déduisant quel sera l'avenir. Mais ici, il y a la conscience humaine entre le passé et l'avenir, qui est libre. Et ça, c'est la grande vertu du repentir. Ça veut dire, si je suis capable de retourner dans le passé pour arranger quelque chose qui s'est mal passé, je peux changer l'avenir. Vous avez compris comment ça se met ?
Comment ça se met ?
Or, précisément, en hébreu, c'est la seule langue au monde où il y a une règle de grammaire qui change le passé en futur et le futur en passé.
Ce n'est pas possible.
Eh oui,
l'hébreu est impossible à apprendre.
Oui, et on peut l'apprendre, bien sûr.
L'ambassadeur d'Israël m'a dit, les Camerounais veulent qu'on ouvre un cours d'hébreu.
Ça a commencé, il m'a dit. Il m'a dit que ça a commencé, qu'il y a des...
Oui, il m'a dit ça, je l'ai beaucoup encouragé.
Oui, et il m'a dit déjà qu'il y a certains Camerounais qui commencent à parler.
Ce n'est pas possible.
Pas seulement à lire, mais à parler. Oui, oui, je vous garantis.
J'en suis vraiment heureux.
Et alors, vous voyez... Je vais vous dire, voilà. Nous avons le mot qui veut dire « il arrivera ». Si j'ajoute une lettre devant, ça veut dire « il est arrivé ». Et le mot qui veut dire « il est arrivé », si j'ajoute une lettre, ça veut dire « il arrivera ». Alors nous avons une règle dans le Talmud. Chaque fois qu'il y a un texte de la Bible qui commence par « et il arrivera », c'est une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que le mot, c'est un passé transformé en futur.
En futur.
Ça veut dire, si le passé peut être rejoué dans l'avenir, c'est une bonne nouvelle. Tandis que le mot « et il est arrivé », c'est l'inverse. C'est un futur qui est devenu du passé. Alors là, c'est un malheur. Vous avez compris ce genre de mentalité de règles de grammaire ?
C'est pas mal. C'est original.
Et ce qui fait que, pour revenir là, les prophètes connaissent la loi de fonctionnement de l'histoire. Parce qu'ils comprennent tout le passé. Et donc, ils peuvent savoir comment ça sera
dans l'avenir,
d'après la conduite des hommes. Seulement, il y a toujours, dans l'histoire biblique, il y a toujours le projet de Dieu à un rendez-vous. Jusqu'au moment du rendez-vous, on est libre d'aller de n'importe quelle manière à ce rendez-vous. Mais lorsqu'on arrive tout près du temps, c'est imposé. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire.
Si. Il y a un projet divin. Oui. L'homme est un peu libre, mais il ne peut pas tellement s'en écarter.
Quand les chances arrivent,
on ne vous laisse plus beaucoup de liberté. Et puis il y a un plan divin qui doit se réaliser. De moi, c'est ce que j'ai écouté.
C'est ça. Tout à l'heure, je vous lirai un texte du Zohar qui décrit la guerre autour d'Israël déclenchée par les descendants d'Ismaël qui veulent empêcher les Juifs de revenir chez eux. Et ce texte, chaque année, nous le lisons la semaine qui précède le 15 janvier. Je vous montrerai avec mon calendrier si vous voulez. Or, c'est extraordinaire, parce que nous avons lu, donc cette année, nous avons lu ce texte, et d'ailleurs, je l'ai fait enseigner, je l'ai fait lire à mes élèves, et j'ai dit, voilà, nous sommes arrivés à la semaine où ça va se déclencher, 3 jours après, ça se déclenche.
est une précision mathématique.
Et ce texte est sur un verset que nous lisons habituellement le début novembre. Or, c'est au début novembre que l'ONU a décidé que l'ultimatum serait le 15 janvier. Vous savez, moi, je n'explique pas ces choses-là en public.
C'est ça.
Ça donne le vertige. Oui. Ça, je vous explique à vous pour vous montrer qu'est-ce que nous
vivons. Les correspondances et...
Et alors, voilà donc que le peuple d'Israël était, ne s'appelait pas encore Israël, avant Abraham, c'était le peuple des Hébreux, des descendants de Héber. Et ils étaient en exil dans la civilisation de Chaldée, dont le tyran était Nimrod. Vous vous rappelez de ce Nimrod?
Nimrod, c'est ça.
C'est autant d'Abraham. Et alors, lorsque Abraham décide de quitter cette civilisation de Chaldée, eh bien, de lui-même, il se dirige vers le pays de Canaan, avant que Dieu ne lui dise où aller. Si vous voulez, nous allons relire cela, et ensuite, je vous dirai pourquoi il savait où aller. Parce qu'il s'agissait de la terre des Hébreux, d'où ses ancêtres avaient été. Alors ça, ça se trouve à la fin du chapitre 11 de la Genèse. Je vous dis à quel verset. Verset 31.
Terra prit son fils Abraham, son petit-fils Lot, fils de Haran, et sa fille Sarah, femme d'Abraham, et le fils a été tour de Chaldée pour aller au pays de Canaan.
Voilà. Vous voyez, ça suffit déjà de dire comme ça, quand on verra un autre verset. C'est-à-dire, sans que Dieu ne lui dise rien, il sait où il faut aller. Alors là, c'est le chapitre 11, verset 31. Alors, vous prenez le début du chapitre 12 maintenant, le premier verset.
Il avait dit à Abraham, quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je t'indiquerai.
Que je t'indiquerai. Il ne lui dit pas lequel. Hein? Alors, vous prenez maintenant, juste après, au verset 1 minute, vous prenez le verset 5.
Abraham prit sa femme Sarai, son neveu Lot, tout la voie qu'ils avaient amassée et le personnel qu'ils avaient acquis à Aaron. Ils se mirent en route pour le pays de Canaan.
Voilà. Alors que Dieu n'avait rien dit.
N'avait rien dit. Oui.
Donc, ça veut dire qu'il le savait. C'est le pays des Hébreux. Alors voilà, on va voir le verset. Il s'appelle le pays de Canaan parce que les Cananéens l'avaient envahi au temps où les Hébreux étaient au pays. Nous avons un verset très clair dans l'histoire d'Abraham, mais il y a un autre verset plus important. Je vais vous dire tout de suite quel est le chapitre et où on apprend que la Bible nomme ce pays le pays des Hébreux. Alors ça, c'est chapitre 40 de la Genèse toujours au verset 15. Voilà, je vous raconte l'histoire. C'est quand Joseph a été mis en prison en Égypte.
Oui.
Et qui rentre.
En effet, j'ai été enlevé du pays
des Hébreux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme Hébreux dans le pays de Canaan à l'époque? Jacob et ses fils. Et pourtant, dans la civilisation d'Égypte, on sait que ça s'appelle le pays des Hébreux. Puisque là, Joseph parle à un ministre du Pharaon qui était en prison avec lui. Vous vous rappelez?
C'est ça.
Alors là, c'est une preuve très claire que pour la Bible, il est évident que le pays de Canaan, c'est le pays des Hébreux. Si vous voulez, je vous donne le verset dans l'histoire d'Abraham maintenant, qui indique que les Cananéens étaient des envahisseurs. Alors ça, ça se trouve, je vous dis tout de suite, dans le chapitre 14 et 15, mais je vais vous montrer. Voilà. Et vous prenez le chapitre 13 au verset 7. Le père est
Les Cananéens
et les Périsiens
habitaient alors le pays.
Voilà, oui.
C'est-à-dire que ce n'était pas réellement leur pays.
Le pays. Et vous savez qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire. Là, je vous ai mis une parenthèse sur le mot de Palestine. Le mot de Palestine a été donné au pays par les Anglais. Jusque-là, ça s'appelait la Judée. Et le mot de Palestine a été donné au pays par les Anglais, ils l'ont repris des Romains. Et c'était le pays des Philistins. La Palestine, c'est Pelachet en hébreu, les Philistines étaient les Philistins. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en hébreu, la racine d'où vient le mot de Palestine, ça veut dire les envahisseurs. Les Philistins étaient les envahisseurs qui étaient installés dans le territoire de Gaza. C'est ce territoire-là qui s'appelait la Palestine au temps des Romains. Alors, les Palestiniens aujourd'hui, les Arabes qui se prétendent être Palestiniens, ne savent pas que le nom qui se donne, ça veut dire les envahisseurs.
Les envahisseurs.
Vous vous rendez compte de l'inverse?
Alors que c'est plutôt les
Israéliens qu'on accuse d'être des envahisseurs parce qu'ils rentrent au pays des Hébreux.
Alors qu'ils y étaient bien avant.
Bien avant, c'est ça. Je vous raconte une histoire. Quand j'étais enfant, j'étais au lycée français, et chaque fois qu'il y avait un juif premier de la classe, ça arrivait, alors tous les élèves non-juifs disaient « les juifs en Palestine ». Déjà, c'était un pays raciste.
Oui.
Et alors, nous, on arrive en Palestine, et là-bas, on dit « ah, c'est pas chez vous, c'est les autres oui. ». Parce que jusqu'au temps actuel, tout le monde savait que le pays des juifs, c'est la Palestine. N'est-ce pas, vous avez
dit ? C'est ça ?
Bien, alors voilà donc ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une rivalité universelle sur le pays des Hébreux, parce que c'est là qu'est l'identité des hommes que la Torah appelle les Hébreux, depuis Abraham, et c'est l'homme universel avant la grande dispersion humaine. Je ne sais pas si on avait déjà étudié ça ensemble, c'est qu'on s'est habitué dans la civilisation occidentale à définir les Juifs comme un peuple en diaspora, en exil, comme si c'était leur nature. En réalité, la Bible raconte tout à fait autre chose. C'est que c'est l'humanité qui est en dispersion et qu'à chaque civilisation, le peuple d'Israël va rejoindre la dispersion des nations pour la réunifier. Et nous sommes dans un temps maintenant de rassemblement de la fin de l'histoire. Parce qu'il y a eu quatre grandes civilisations d'après la Bible. C'est surtout expliqué dans les visions de Daniel. Et il y a eu Babel, la Perse, comme nous avons vu, la Grèce et Rome. Alors nous avons un texte dans le Talmud que je vais vous montrer, qui explique qu'à la fin des temps, notre temps, deux de ces civilisations resteront dans le monde. Babel est récupéré par la Perse et Yavan, la Grèce, est récupérée par Rome. Effectivement, la civilisation occidentale, elle est gréco-romaine. De la même manière, l'islam a pour, si vous voulez, aire géographique, le pays de Babel, c'est-à-dire l'Iran, l'Irak et l'Arabie. Tout ça, c'est le temps de Babel au temps d'Abraham. Et alors donc, à la fin des temps, ces deux civilisations vont s'affronter. C'est d'une part Rome, d'un côté, et d'autre part la Perse. Alors bien que le conflit actuel, c'est l'Irak. Mais l'Irak, c'est la partie de Babel qui est devenue arabe. Alors que l'Iran, c'est la partie de Babel qui est restée perse, puisque les Iraniens sont des Perses. Tout cela, c'est l'islam. Et alors, j'ai un texte que je vais vous montrer, parce que là, j'ai la traduction en français, et qui montre qu'il y a une discussion dans le Talmud de savoir lorsque Rome, c'est-à-dire Édom, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, Édom, c'est la peuplade d'Ésaü, qui est le frère de Jacob qui dispute son nom d'Israël. Et qui a donné dans l'histoire la civilisation romaine. Et lorsque Édom, Rome et la Perse vont s'affronter, les rabbins du Talmud se posent la question, laquelle des deux triomphera? Et il y a les deux hypothèses, mais finalement la conclusion, c'est que c'est Rome qui tribue. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit hier soir, mais...
Oui, vous m'aviez dit hier.
C'est-à-dire, là, nous pouvons être rassurés. Dans ce conflit, c'est évident que c'est l'Occident qui va gagner, d'après la Bible. Alors, si vous voulez lire par vous-même ce texte, dans le Talmud, et c'est la traduction de ce texte hébreu.
Rav Yeshua,
première hypothèse.
Car il est écrit, écoutez l'homme, le dessein que l'Éternel a formé contre les hommes, il est projeté en unité contre les habitants de ton monde. Certes, les plus humbles gardent le secret, et les entraîneront en force. Certes, on fera ce que le Seigneur leur derrière. Là-bas même, là où je peux commencer, tant que les plus jeunes bêtes mentionnent l'évangile, signifie la peste. Dans la mer, il est écrit le bélier que tu as vu venir de Dieu comme désigne les rois de Médie et de Perse. Mais peut-être est-ce la Grèce. La femme du verset ne dit-elle pas le bouc bélier, c'est le roi de Grèce. Lorsque le roi de l'hiver, par sur la qui est venu, je n'élève des rabbins pour la situation où il a connu. Celui qui ne sait pas commenter un verset de l'écriture fait des objections. Par les plus jeunes d'entre les deux qui font entendre le jeune frère de la vie de Seigneur, tira c'est la fesse. Avant on a dit au nom de l'enseignement reçu de Yeshua, il l'est aïe. Rome finira par trouver entre les mains de la fesse. Il y a ici un argument à force, alors que pour le premier temps, consulta les enfants de Seine et que les Calviens détruisirent, il se trouva que les destructeurs Calviens tombèrent entre les mains des Perses. N'est-il pas forcément plus juste que pour le deuxième temple, la bâtie par les Perses et détruite par les Romains, les destructeurs romains tombent entre les mains des Perses.
Oui, ça c'est la première hypothèse.
C'est analogie,
disons. Mais ça va être repoussé.
Rav a dit, la Perse finira par tomber entre les mains de Rome. Rav Kahan et Rav Sidi Rav, est-il possible que les constructeurs tombent entre les mains des destructeurs? Il répondit oui, c'est une décision royale. Il y en a qui disent qu'il leur répondit, cela, c'est-à-dire les Perses, aussi détruisaient des maisons de prière. Il existe une
braille. C'est une tradition talmudique en plus ancienne.
La Perse finira par tomber entre les mains de Rome. Voilà. Première raison, ils détruisaient des maisons de prière. Raison supplémentaire. Il existe une décision du roi selon laquelle les constructeurs tomberont entre les mains des destructeurs.
Oui. Et donc, ça, c'est la source essentielle qui nous montre que effectivement c'est Rome, donc l'Occident, qui triomphera de l'islam. Alors, il reste un seul problème duquel je vais parler. Déjà, quand nous avons étudié ce texte, pour nous, ça a commencé donc en août, le conflit. Ce qu'on craignait, c'est un rapprochement entre l'Irak et l'Iran. Parce que s'il y a un rapprochement entre l'Irak et l'Iran, alors ça veut dire vraiment qu'il s'agit de la Perse. Or, aujourd'hui, on est en train de voir qu'il y a des tentatives de rapprochement.
C'est ça, ces avions de Saddam.
Oui, voilà. Alors donc, on est en plein dans ces prophéties.
Oui. Mais tout ça a été... Évidemment, il faut savoir...
Il faut savoir le lire. Vous remarquez que c'est difficile à lire.
C'est difficile, c'est difficile. Puis c'est d'une logique, d'une rigueur...
Oui. Comme d'habitude. Et voilà donc le premier thème. Alors, si vous voulez, je vais vous lire, parce que là, je n'ai pas la traduction française, je vous lis directement sur l'araméen. Le texte du Zohar dont je vous parlais tout à l'heure.
Et puis, sur le plan objectif même, ces pays ne peuvent pas résister à la puissance militaire et industrielle.
Absolument. Et comme je disais tout à l'heure, il y a un entêtement de s'être jeté dans cette guerre, comme si c'est plus fort qu'eux.
On ne sait pas en dire. Ça défie la raison.
Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est le plan de Dieu qui se réalise. Et en plus, comme nous avons vu, Israël est au centre alors que ça ne le concernait pas.
Non.
Et oui. Et vous savez, au moment de la sortie d'Égypte, justement, il y a, lorsque au passage de la mer Rouge, Moïse veut prier pour sauver Israël. Et alors à ce moment-là, Dieu intervient. Et Moïse dit à Israël, c'est Dieu qui va combattre pour vous et vous resterez silencieux. On dit que nous vivons ça.
Mais oui.
Mais nous vivons. Attendez, je vais trouver ce texte là. Et voilà. Voilà, alors ça c'est un texte Zohar. Vous avez un Zohar chez vous en français?
Non, non, non.
Il faut que je vous en envoie un. Alors voilà, je vais vous le dire. Depuis le début, voilà comment ça commence. Ça commence dans l'histoire d'Abraham. La promesse de Dieu à Abraham qu'il aurait un fils devait passer par Sarah. Et Sarah était hébreu comme Abraham. Mais Sarah était stérile. Et alors Sarah propose à Abraham de prendre sa servante qui est Agar. Vous rappelez cela?
C'est ça.
Or, Agar était la fille du pharaon. Alors, du point de vue de la symbolique, ça signifie que la matrice hébraïque, Sarah, était empêchée d'enfanter.